Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur Radio Grenouille 88.8 et nous sommes en ce moment en direct du 25 rue de la République dans le 2e arrondissement de Marseille. Nous sommes dans une épicerie éphémère qui fait aussi restaurant le midi et le soir du mercredi au samedi pendant tout le mois de septembre. Alors cette épicerie vient juste d'ouvrir ses portes. C'est un projet porté par le restaurant Les Grandes Tables et par le Fonds épicurien Provence. Le but, c'est rassembler une trentaine de producteurs locaux dans cette épicerie qui accueillera aussi trois émissions de radio, comme aujourd'hui jusqu'à 19h30, mercredi prochain le 13 et le suivant mercredi 20 septembre. Il y aura également des soirées plus festives les vendredis et les samedis soirs du mois de septembre. Pour ce premier plateau assuré par Sébastien Gellier à la technique et qui sert un peu de coup d'envoi à ce mois au 25 rue de la République, nous parlerons d'alimentation durable et de son rôle au sein de la République. République, la rue, le quartier, mais bien évidemment la République entendue comme la chose publique, la vie de la cité. Alors pour parler de ces sujets, je suis ravie d'accueillir des intervenants nombreux, divers et très enthousiastes autour de la table, et notamment le public également. Donc un rapide tour de table s'impose. Il y aura donc à mes côtés Thomas de Villancourt, bonjour. Fondateur du Fonds épicurien Provence, un fonds donc du coup de dotation et de mécénat qui a pour vocation de soutenir des projets et des initiatives à but non lucratif dans la région PACA autour de l'agriculture, de l'alimentation et du développement durable. Donc vous êtes cofondateur, enfin à l'initiative de ce projet d'épicerie. Frédéric Denel, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes fondateur également d'EcoFarm, une association qui suit une quinzaine de projets liés à l'alimentation durable.
Voilà. On met en œuvre des projets d'agriculture urbaine et de ferme urbaine.
Dans la région. Alors, Vivien Larcher, bonjour. Vous êtes apiculteur.
C'est ça.
Apidologue, c'est important. Peut-être expliquer la différence entre apiculteur et apidologue.
Apiculteur, producteur de miel et produit de la ruche. Apidologue, c'est la définition de l'apidologie, c'est l'étude du comportement des abeilles, des techniques apicoles, techniques d'élevage et sanitaires.
Merci bien. Également à mes côtés, Emmanuel Perraudin, grand chef cuisinier marseillais. Vous avez travaillé entre autres au Relais 50 et aujourd'hui vous menez vos projets plus personnels.
Bonjour. Exactement ça, bonsoir.
Bonsoir. Enfin Magali Poivert, cofondatrice du Super Cafouche. Donc Super Cafouche, une association qui a pour objectif d'ouvrir le premier supermarché coopératif et participatif, c'est important de le dire, à Marseille.
Tout à fait.
Et qui peut-être a trouvé un local.
Oui, alors c'est un scoop. On en parlera, c'est un peut-être, mais effectivement, on a de bonnes voies pour un local.
Et qui sera financé sans doute par...
Et qui sera sûrement financé par la campagne de financement participatif qu'on lance en octobre.
On en reparlera, merci beaucoup. Et enfin, Joël Zax, qui n'est pas encore parmi nous, mais qui arrivera au cours de la soirée. Joël Zax, philosophe à Aix-Marseille Université et auteur notamment de La démocratie au champ. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous, merci... Parmi nous. Merci pour votre présence. Alors, l'alimentation durable, donc je parle sous le regard de Frédéric Denel, qui me corrigera peut-être, on pourrait définir comme un régime alimentaire avec de faibles conséquences sur l'environnement, qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à une vie saine pour les générations à la fois présentes et futures.
Très bien.
Ça va. Et quand on parle d'alimentation durable, on parle de régime, on peut parler de régime économiquement équitable et accessible pour tous.
Absolument.
Ça serait l'objectif idéal. Donc il y a donc des enjeux de santé publique, d'écologie, mais aussi d'égalité entre les citoyens. On le verra peut-être au cours de la soirée. Et justement, les citoyens et l'alimentation au cœur de la République, c'est le sujet de cette émission. Joël Zax, qui devrait nous rejoindre, a proposé dans son livre « La démocratie au champ » de penser la République comme une sorte de métaphore du jardin, avec des exemples aussi bien mythologiques, historiques ou philosophiques, d'Adam et Ève, Rousseau et son idée de nature, le président Jefferson aux États-Unis et son concept d'autogouvernement basé sur l'image de la ferme, cette petite république, ou à des pratiques sociales anciennes comme les jardins ouvriers ou plus récentes comme les jardins partagés, on verra tout ça. La terre donc semble à la fois une image, un idéal utilisé et réutilisé pour penser notre rapport au monde, mais aussi une réalité assez concrète pour construire aujourd'hui et maintenant une petite démocratie ou une véritable démocratie. On peut d'ailleurs parler de culture démocratique avec un peu les deux sens du mot culture. Culture comme ce qui est différent de nature, un trait de l'humanité donc, mais culture aussi comme exploitation de la terre et rapport avec la terre. Donc aujourd'hui, nous allons parler de rapport entre agriculture, alimentation, production, consommation. On pense surtout à la nécessité de renouer les liens entre les différentes étapes et vos présences respectives ici autour de la table le montrent. Donc vous êtes tous concernés par cette question de l'alimentation durable à des échelles différentes et complémentaires, donc des conditions de production à la gastronomie en passant par la consommation et l'implication de chacun dans le processus. C'est ce que nous allons voir pendant une heure et demie tous ensemble. Alors Viviane Larcher, peut-être pour commencer sur les conditions de production, justement, vous qui êtes apiculteur, ce mot durable, l'alimentation durable, pour vous en tant qu'apiculteur, ça veut aussi dire vivable pour les producteurs.
Vivable pour les producteurs et surtout peut-être pour les abeilles déjà, puisque l'animal souffre de la présence de l'homme de plus en plus à cause des pesticides, insecticides et tout ce qu'on connaît autour des ruches. Beaucoup d'apiculteurs mettent la clé sous la porte à cause des mauvaises années sur toutes leurs exploitations et notamment à cause du manque de ressources alimentaires, puisque la monoculture a fait énormément de ravages sur l'agriculture en France et du coup les apiculteurs en subissent les conséquences et les abeilles en premier. Donc la sécheresse fait que aussi, donc le changement climatique, et on le voit tout de suite sur nos colonies, on voit le manque de ressources sur nos colonies et on le voit dans la production de miel, dans la production de pollen, de gelée royale, de produits de la ruche sur la saison apicole et sur l'élevage des rennes et des essaims, la production d'essaims, c'est exactement la même chose et c'est impacté de la même façon.
Est-ce que vous diriez que c'est durable comme métier ? Enfin, à quel point c'est difficile de s'installer aujourd'hui en tant qu'apiculteur ?
C'est difficile de s'installer, sachant qu'il n'y a pas de... Il y a quelques formations qui existent en apiculture. Il n'y en a qu'une seule qui existe en apidologie, donc l'étude du comportement des abeilles. Donc c'est l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie, qui la délivre sur les techniques d'élevage sanitaire et pathologie de l'abeille. À côté de ça, il n'existe pas d'autres formations en France et en Europe sur l'élevage, qui est la principale partie d'un apiculteur qui a besoin de ses abeilles, de ses rennes pour faire de la production de miel ou de produits de la ruche. Donc c'est très difficile de s'installer et il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent très rapidement à sortir de l'eau.
Alors ce soir, on parle d'alimentation durable, mais aussi de circuits courts et de pratiques alternatives de consommation et de production. Comment, pour vous, ça se passe ? Est-ce que vous produisez pour des circuits courts ? Est-ce que les apiculteurs produisent souvent pour des circuits courts ?
Au début, il y a beaucoup d'apiculteurs qui vont choisir les circuits courts autour de chez eux. Et puis, s'ils arrivent à avoir une belle production de miel, de produits de la ruche, vont élargir leur production, vont vendre en gros, puisque c'est une partie, je vais pas dire de facilité, mais presque, puisque quelqu'un qui va vendre un fût de miel va vendre directement un fût et de 300 kilos et sans s'embêter avec les étiquettes, les pots et ainsi de suite, et la vente locale. Alors que d'autres vont préférer justement le local pour se faire voir et pour garder ce petit, ce petit réseau local, voilà, de producteurs. Après, il y a beaucoup de difficultés à avoir des producteurs locaux et à rester dans le local en ce moment.
Alors, on le verra peut-être au cours de la soirée, mais durable et local, ça ne veut pas forcément dire bio, par exemple.
Non,
donc, vous, dans votre cas...
Alors, il y a des apiculteurs bio, il y en a des conventionnels, il y en a des raisonnés, donc qui vont être conventionnels sur les produits et qui ne... pas forcément accepteront d'avoir le label puisque ça a un coût. Le coût va être de la cire qu'on met dans nos ruches, elle doit être bio, le nourrissement des abeilles doit être bio et ainsi de suite. On doit payer les étiquettes, on doit payer plein de choses pour pouvoir avoir le label bio, alors que des apiculteurs raisonnés travaillent aussi bien que du bio et n'ont pas besoin du label pour faire quelque chose de propre.
Thomas de Villancourt, vous travaillez notamment sur ces questions-là un peu. Vous faites du mécénat pour des projets de ce type. Qu'est-ce que seraient les critères pour vous de la durabilité ? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous essayez de...
Alors merci pour votre question. C'est vrai que avant de parler de durabilité, déjà, c'est important de rappeler aussi l'enjeu de la durabilité et l'enjeu sur le territoire. C'est vrai que qui dit durable dit développer des projets, et qui dit développer des projets, c'est qu'ils soient, au départ portés, soutenus, aidés financièrement. Et donc, c'est important de rappeler aussi l'historique du fonds épicurien. Le fonds épicurien, c'est cet objectif de dire... Certaines personnes ont un peu de patrimoine, ont la possibilité de le partager. C'est comment partager sur le territoire un peu de leur réussite professionnelle pour transmettre. Alors là, on parle de transmission d'argent, mais c'est pas grave. C'est comment on peut transmettre, comment on peut aider, comment on peut donner envie à d'autres entrepreneurs, à d'autres personnes qui ont des projets d'y arriver. Et c'est vrai que quand on va parler de permaculture, d'agroforesterie, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où la personne qui porte le projet, elle n'a pas toujours une dynamique économique, elle a souvent une dynamique écologique. Et nous, entrepreneurs, peut-être un peu parfois capitalistes, on est dans cette situation où on se dit « Non, mais malheureusement, pour tenir des projets écologiques, il faut avoir un projet économique. » Et aujourd'hui, on a parlé d'apiculture à l'instant avec Vivien. Et on se retrouve dans cette situation, c'est qu'on peut être idéaliste, on peut vouloir changer le monde, on peut vouloir mieux manger demain. Mais il va falloir qu'on les aide à aussi gagner leur vie. Et donc c'est pour ça que le fonds épicurien a été créé. Donc moi j'en suis le fondateur, avec une équipe de partenaires, une équipe de soutien financier qui disent mais c'est vrai, soyons acteurs sur le territoire. Acteurs de quoi? Acteurs de projets qui sont des gens idéalistes, qui ont des idées incroyables. Moi j'ai pas d'idées, mais j'ai un peu de moyens. Et donc je me suis dit, on va partager ça, on va leur donner les moyens d'y arriver. Alors on a parlé de permaculture, mais on peut parler aussi de la brousse du Rove, cette brousse qui arrive, qui va tenter d'avoir, on espère, cette AOP, on espère se développer, se faire connaître. Et des gens passionnés qui, depuis des années, s'enferment, tous les jours bossent, 6 heures par jour vont balader leurs chèvres, etc. Et qui n'ont pas obligatoirement un modèle économique, quoi, ils aimeraient en avoir un, mais c'est jamais simple de l'avoir. Donc voilà, pour recentrer le débat, donc l'idée c'est on porte des projets, on les soutient. Derrière, on parle de durabilité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on souffre sur nos maladies, on souffre sur la manière de consommer. Et il y a un moment, où va-t-on, quoi? Donc là, je ne veux pas lancer la polémique, mais c'est vrai qu'on est dans une société où on aimerait aller toujours plus vite, aller toujours plus, payer toujours moins cher. C'est pas possible. Donc il va falloir donner la chance à ces gens qui veulent changer le monde. Il va falloir qu'on les aide à y arriver. Et je parle notamment ici là, des champignons de Marseille, avec Maxime qui a une histoire incroyable, qui est en train d'être ici dans les caves de la République, au 25 rue de la République. On va retrouver Maxime tout le mois qui va nous parler de ces champignons. Il est en train de nous dire, l'alimentation durable, c'est produire avec du marc de café de nos cafés marseillais, des champignons qui vont être cuits sur place, bientôt dans des hôtels de luxe même, ou pas de luxe, c'est pas toujours, ne nous trompons pas sur le débat. C'est ça qui est intéressant, c'est local, c'est sans intrants, et c'est sain.
Vous avez une vision peut-être un peu macro de tous ces projets que vous soutenez. Est-ce qu'il y a une recette, si j'ose dire, qui marche mieux en termes économiques pour les producteurs?
Mais c'est là où il y a un problème, c'est que je trouve, en tout cas avec l'expérience qu'on a, maintenant ça fait 3 ans, on a injecté 300 000 euros sur le territoire, et on s'aperçoit que le modèle écologique, le modèle idéaliste n'est pas toujours lié avec le modèle économique. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces magnifiques porteurs de projets aient une fibre entrepreneur, c'est le cas parce qu'ils s'y jettent, mais qu'ils aient une fibre aussi visionnaire et qu'ils assument le fait de gagner de l'argent. Je ne dis pas que tout entrepreneur dans l'écologie n'est pas prêt à l'accepter, mais c'est vrai que quand on est, je vois une association qui a des jeunes brillants qui ont fait des études de bac plus 5 et qui décident à 22 ans d'arrêter, bac plus 5, non, 17, enfin ouais, ça marche, 22, entre 22 et 24 ans, qui décident d'arrêter une carrière prometteuse dans des grands groupes et qui se disent on va se lancer dans la permaculture et on s'installe dans les Hauts de Sainte-Marthe pour créer une ferme. Non, mais ils sont fous. Ils s'en foutent, mais c'est ça, c'est ces gens-là qui vont nous permettre de mieux manger demain, d'avoir des tomates saines, des produits. Donc cette association, cette Terre de Mars, qu'on aime beaucoup, mais typiquement, c'est une belle structure. C'est une structure, ils se sont dit, mais on n'accepte pas le modèle économique actuel, on va en créer un autre. Mais c'est pas simple pour eux, parce qu'ils sont dans une logique qu'on aimerait voyager, on aimerait partager, avoir une belle voiture. Mais pour eux, c'est pas possible aujourd'hui. Ça pourrait l'être, à condition que malheureusement, à certains moments, ils acceptent d'intégrer de l'économique. Mais attention, l'économique, ça veut dire quoi ? Mettre de l'intrant, mettre des pesticides, mettre de l'engrais pour aller plus vite et consommer plus fort ? Ben non, c'est pas le projet. Donc c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Et l'alimentation durable, c'est aussi ce projet-là. C'est comment on fait pour parler intelligemment de à la fois un circuit court, à la fois un circuit intelligent et à la fois un circuit sain pour la santé. On n'est pas toujours en capacité de manger bien, c'est compliqué. Là, moi, je viens de faire un voyage et je m'aperçois que l'obésité, c'est pas simplement chez nous, c'est partout. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas accepter ce problématique de manger des chips à toutes les heures de la journée. Que vous allez sur un transfert, il y a toujours un paquet de chips dans une main de quelqu'un. Je n'ai rien contre les chips, je dis juste, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Voilà.
Et du coup, remettre aussi le consommateur, enfin relier le producteur et le consommateur, peut-être ensemble. On le verra peut-être après cette petite pause musicale. C'est un titre proposé par Jérôme Mathéo, c'est New Orleans de Jacques Higelin.
Pamela Norton, c'est le nom qui m'est venu en rêvant d'une créole au corps d'idole païenne. Quand Buddy Bolden défilait dans Storyville, c'était la reine de tous les marching bands de la Nouvelle-Orléans. Dix ans plus tard, Pamela danse dans les bars de Chicago. Louis Armstrong, King Oliver, star du ghetto, ambassadeur du peuple noir. Le diable au corps, la bouche en feu, les lèvres en sang, souffle dans son cœur le vent de leur liberté. Pamela Norton, c'est le nom qui m'est venu en rêvant des rues d'Harlem dans les années folles. Je la vois s'élancer comme un oiseau qui s'envole sur les volutes enflammées du piano de Jerry Roll Morton. Come on, black, don't. Better than the one, though. Better than the one, though. Oh, Pamela Norton, c'est le nom qui m'est venu d'une madone au sein nu que j'adorais dans ma chambre quand le corps brûlant et la tête dans les étoiles, je dansais sur la voie royale de Duke Ellington. Yeah. 1950, je venais d'avoir 10 ans, quand à la radio, les grands oiseaux partis de Louisiane sont venus me voir pour me planter dans les veines la graine et la flamme de la musique noire révolutionnaire.
Qu'est-ce que t'as ? Ça va pas ?
J'ai pas faim.
Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse.
Et nous sommes toujours au 25 rue de la République pour parler alimentation durable au cœur de la République avec autour de la table de nombreux invités et notamment Joël Zas qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Donc philosophe, pour présenter un petit, tout petit peu, philosophe à l'université Aix-Marseille et auteur notamment d'un ouvrage qui s'appelle « La démocratie au champ ». Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, juste avant cette pause musicale, on évoquait un peu le côté production et consommation. Donc, peut-être faire le lien maintenant entre production et consommation, justement, et entre producteur et consommateur. Donc, je me tourne un peu vers Frédéric Denel. pour vous, donc l'agriculture urbaine, par exemple, donc les projets que vous soutenez, enfin que vous menez, mettent au cœur un peu, enfin remettent au cœur le consommateur au cœur du processus de production.
Ouais, c'est ça.
Je vais y arriver.
C'est exactement ça. C'est aussi recruter les futurs paysans, puisque on ne le sait pas, mais il y a de moins en moins de paysans en France. Et si on trace une courbe à 10, 15 ans, 20 ans, on n'en aura plus. Donc il n'y aura plus personne pour produire en bas de la nourriture. Et c'est d'autant plus dingue que, historiquement, si on prend le début du XXe siècle, à Marseille et à Paris, 100% des fruits et légumes étaient produits intramuros. Je dis bien intramuros. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est 2-3 générations. Ça peut paraître incroyable, mais en quelques temps, tout a changé. Tout a changé. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire la liste de tous les problèmes que Macron connaît sur la pollution des sols, sur la pollution des eaux, etc. Moi, je suis ici un peu par un parcours personnel. Il y a 3 ans, j'ai participé au cofinancement d'un documentaire qui s'appelle « Demain ». J'ai trouvé ça super parce que ça me parlait de solutions. Et moi, j'étais vraiment affecté, comme beaucoup d'entre nous, sur la liste des problèmes qu'on constate. Et si on a des enfants, on a une responsabilité par rapport à eux. Et ça me pesait beaucoup. Et j'ai participé au financement de ce documentaire parce que ça parlait de solutions. Et en contrepartie de ce financement, je suis parti en formation, initiation à l'agroécologie dans la ferme de Pierre Rabhi. En Ardèche, et là j'ai découvert plein de choses incroyables, des choses terrifiantes, mais surtout le fait qu'il y avait des solutions alternatives à la manière dont on produit la nourriture aujourd'hui. Et on a tous envie de ça. Il faut quand même dire que l'agriculture conventionnelle a été extrêmement efficace depuis l'après-guerre, et que ça marche bien. Le seul défaut, c'est qu'à terme, ça nous empoisonne, et ça empoisonne et l'eau. Et la terre. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Et l'agroécologie a des solutions qui commencent à fonctionner, qui ont été prouvées scientifiquement, qui sont reproductibles. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc quand le documentaire Demain est sorti, ça m'a vraiment mis un coup de boost. Et j'ai décidé en gros de changer de vie, tout simplement. Et je me suis dit, si la ferme du Bec-et-Loin en Normandie fonctionne aussi bien, alors que ce couple n'est pas paysan de profession, pourquoi est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas le faire de la même manière, mais dans ma ville, à Marseille. Et donc, j'ai commencé à chercher un terrain. Je me suis dit, ça va être compliqué de trouver un terrain pour produire de la nourriture dans Marseille. Et finalement, j'en ai pas trouvé un, mais j'en ai trouvé plusieurs. J'ai été rejoint par tout un tas de personnes qui ont été emballées par le projet, souvent des jeunes issus d'écoles de commerce qui commençaient à comprendre qu'avoir un boulot qui a un sens et qui est durable, c'était plus intéressant que d'avoir un poste bien rémunéré. Et depuis 2 ans, effectivement, on a lancé plein de projets. On en a à peu près une quinzaine en parallèle, dont 2 qui vont démarrer dans les semaines qui suivent. Et donc, on va essayer de prouver qu'on peut produire de la nourriture autrement, une nourriture durable, accessible à tous, sans intrants chimiques. Et durable, ça veut dire une agriculture qui enrichit les sols, qui recrée de la biodiversité, et qui produit de la nourriture à un prix abordable pour tous, et surtout vachement bonne, quoi. Surtout ça, c'est vraiment important. Et je me suis lancé parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant moi, en France, aux États-Unis, et ça marche.
Et justement, la ville de Marseille et la région PACA, on en est où, comparé peut-être, pas au monde, mais en tout cas aux autres régions en France ?
On a reçu, à ma grande surprise, beaucoup de soutien. Alors je dis ma grande surprise, parce que ayant un profil entrepreneur venant du privé, j'ai toujours appris à me débrouiller tout seul, sans subvention publique. Et le constat que j'avais posé au départ, c'est de dire il faut y arriver sans l'aide de subvention publique, parce que de toute façon, il y en aura de moins en moins. Et surtout, avec une obsession éco, ça veut dire écologie, économie. Donc l'écologie, oui, mais on ne peut pas changer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et si on n'est pas rentable, à terme, on est en danger et on disparaît. Donc il y avait cette obsession.
C'est ce que disait un peu Thomas tout à l'heure.
C'est exactement ce que disait Thomas, et c'est essentiel. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas un profil d'entrepreneur. Et moi, j'essaye de faire le pont entre les gens qui ont vraiment des valeurs extraordinaires et qui veulent faire les choses bien, mais qui n'ont pas ni le réseau ni les moyens de le faire. Et donc, on accompagne tous ces porteurs de projets pour augmenter les taux de réussite. Donc, on trouve des terrains, on trouve des porteurs de projets. On est vraiment soutenu, à ma grande surprise. Et c'est vraiment bien par la région, par la politique de la ville, vraiment par toutes les institutions en général. Alors c'est long, c'est compliqué, on est en France, hein, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de tous ces cadres techniques qui sont dans les institutions, qui ont les mêmes valeurs que nous, hein, qui ont des enfants, qui constatent les mêmes problèmes et qui font tout pour faire avancer les projets.
Alors concrètement, les projets dont vous parlez, c'est par exemple des micro-fermes, des fermes urbaines.
C'est des micro-fermes. Alors on parle de micro-fermes pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de maraîchage biologique, le message officiel, c'est de dire qu'on ne peut pas produire et être rentable si on n'a pas plusieurs hectares. Et il y a des contre-exemples qui viennent étrangement beaucoup de l'étranger, du Québec et de l'Amérique du Nord. Il y a des génies comme Elion Coleman ou Jean-Martin Fortier qui ont repris en fait les techniques des maraîchers parisiens du 19e, qui les ont remis au goût du jour, qui les ont améliorés et qui ont prouvé depuis, Elliott Coleman depuis les années 70 presque, Jean-Martin Fortier depuis 10 ans, la ferme du Bec-et-Loin et d'autres, Linda Belloué, la ferme des Ruffaux, qui ont démontré que oui, on peut être rentable économiquement et produire une nourriture durable sur des surfaces qui sont beaucoup plus faibles. Et donc ça a laissé l'espace à des expérimentations en ville, parce qu'il se trouve que j'habite Marseille, donc j'ai cherché des terrains à Marseille, et donc on va tenter de prouver que ces modèles qui fonctionnent pas très loin de chez nous sont applicables dans la région Provence.
Alors justement, je me tourne un peu vers Joël Zax. Toutes ces mouvements actuels d'agriculture urbaine, de micro-fermes, etc., est-ce que ça s'inscrit dans une lignée ou c'est vraiment pour vous une nouveauté de ces 10 dernières années ?
Ça dépend un peu de la région du monde qu'on habite, mais de fait, l'agriculture dite traditionnelle et familiale représente la majorité, finalement, des exploitations actuellement. Je sais, par ailleurs, par l'intermédiaire d'un rapport de la FAO qui date de 2015, si mes souvenirs sont bons, que cette agriculture familiale et traditionnelle produit 80% des ressources alimentaires mondiales, qu'un très grand nombre, des centaines de millions d'urbains ont accès à un lopin de terre, que les Russes urbains, à 80%, ont la jouissance d'un lopin de terre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la situation de la France est un peu particulière dans la mesure où les jardins familiaux, ouvriers, communautaires et collectifs ont finalement été relativement peu développés comparés à nos voisins, même à nos voisins, ou par rapport, bien sûr, à d'autres pays plus lointains. Donc, à cause de toutes sortes de manies locales qui seraient intéressantes de visiter, mais en particulier à cause d'un certain paternalisme et d'une certaine politique d'en haut. Mais quoi qu'il en soit, ça nous semble aujourd'hui comme peut-être parfois une affaire de bobo, un retour à la terre, quelque chose qui a à voir avec le fait de s'occuper, de trouver du sens dans sa vie. Et donc on en fait une valeur un peu bourgeoise, je dirais, mais ce n'est pas du tout le cas. Je crois qu'il faut vraiment bien réaliser qu'au niveau de la planète, le rôle économique, alors je dis économique au sens réel du terme, c'est-à-dire le rôle des lopins individuels de terre dans des jardins partagés en ce qui concerne la production de la subsistance et de la survie, donc, est vraiment crucial. Et en ce sens, je pense qu'on s'inscrit dans une lignée qui remonte au néolithique, au moins. Voilà.
Emmanuel Perraudin, je vous vois prendre des notes sur ce que dit Joël. Peut-être si vous avez un mot.
Oui, j'ai deux, trois choses à dire, en fait, notamment sur le modèle économique. Il y a un modèle économique, en fait, qui fonctionne déjà très, très bien sur ces problématiques d'alimentation durable. C'est le modèle économique du comté, qui a été créé au Moyen-Âge, me semble-t-il.
Le comté, le fromage,
oui.
Dans le Jura.
Et donc la coopérative, en fait, où des paysans qui produisaient du lait pour survivre, en fait, ont décidé de mettre en commun leur production. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Mon frère continue d'être producteur de lait à comté. Et il a donc une... Non, il est dans le sud du Jura, du côté de Saint-Amour. Et donc il a un revenu qui est tout à fait décent, avec évidemment une vie de paysan, parce que c'est une vocation, en fait, de s'occuper de la terre ou de s'occuper de la production. Mais il a un revenu tout à fait décent. Il n'est pas soumis à la distribution. C'est le comté qui décide, en fait. Déjà, le fromage lui-même décide quand il est prêt. Et du coup, le syndicat même, la coopérative même, et même le syndicat des coopératives, en fait, décident, eux, de leur prix, en fait, finalement. Et c'est ça la force de cette organisation-là. Elle a inspiré, d'ailleurs, énormément de modèles économiques chez les laitiers. On retrouve ça aussi dans le Roquefort et compagnie. Et je pense qu'on voit qu'il y a quelques initiatives qui sont intéressantes du côté du végétal aussi, qui ont été menées, là, avec ce que fait l'ADA avec la PPL, la plateforme paysanne locale, qui essaie justement de regrouper toutes les productions locales pour avoir justement comme ça une plus grosse force de proposition et avoir vraiment quelque chose de pertinent à proposer économiquement parlant. Ça me paraît vraiment, vraiment intéressant. Et puis concernant aussi les questions de jardin, urbain, etc., c'est effectivement, ça peut paraître comme étant quelque chose de beau, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça ne l'est pas du tout, et vous avez tout à fait raison. Là encore, je vais encore parler de la région dans laquelle, de laquelle je viens, donc Jura, Sud-Jura, le Revermont. Qui est un vrai creuset, en fait, c'est presque un centre du monde. Il y a un petit musée là-bas, qui a l'air de rien, qui s'appelle le musée du Revermont, et qui est à la fois une fonction muséale profonde, mais qui est extrêmement vivante, parce que c'est aussi un endroit où plusieurs fois par an, en fait, des gens viennent pour mettre en commun leurs semences, et notamment des semences interdites, et donc pour les partager, les faire vivre. Et c'est quelque chose qui est assez peu connu finalement, mais qui existe déjà depuis des années et qui prend une véritable ampleur. Là, on se trouve dans un village qui fait 2000 habitants. Donc on est vraiment sur des choses qui sont vraiment à l'œuvre profondément.
Merci pour ces précisions. Donc justement sur...
Un tout petit mot sur... Alors effectivement, il y a une forme de rentabilité au sens où on produit, disons, les surplus nécessaires pour... s'alimenter, se procurer d'autres produits. Mais cela dit, par exemple, les jardins communautaires américains dans la ville de New York ont vraiment été créés par des gens très, très pauvres. Hein. Des gens pour qui produire leurs légumes, c'était vraiment une condition alimentaire de base, quoi, une condition de santé et même de survie alimentaire. Donc je crois qu'il y a aussi cette dimension qui est importante, sans compter que, voilà, on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans ce domaine-là, au sens aussi où... C'est vrai que l'agriculture urbaine, c'est le cas à Manchester, enfin dans le sud de Manchester, à Todmorden, là, on a entendu beaucoup parler des incroyables comestibles, mais ça joue aussi une fonction économique cruciale, au sens où il y a vraiment production des moyens de la subsistance, au sens que Marx énonçait. Et donc là, cette économie-là est à prendre en compte, indépendamment même des échanges marchands ou des échanges en nature, quoi, de produits. C'est tout cet ensemble, effectivement, qui est intéressant aussi à...
On va revenir sur cette question plus sociale dans quelques minutes.
Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Me amar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não tem sem dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, e tô o mundo inteiro. Espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro, meu amor. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, que tá o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Só quero amar.
L'alimentation durable au cœur de la République, c'est le sujet de cette émission pendant une heure et demie. On est toujours en direct au 25 rue de la République pour l'épicerie éphémère qui a ouvert pendant tout le mois de septembre. Alors, on parlait à l'instant du lien entre l'alimentation durable et la question sociale, du fait que c'est pas, je reprends le mot de Joël Zax, qu'une histoire de bobo, parfois bien au contraire. Alors, j'aimerais qu'on fasse, que je me tourne vers Magali Poivert, qu'on a très peu entendu, donc du coup, on va vous entendre. Alors, vous êtes fondatrice, cofondatrice d'une association, le Super Cafouche, qui a pour but d'ouvrir un restaurant, enfin un restaurant, pardon, une,
supermarché.
Un supermarché
participatif,
coopératif. Alors, justement, ça s'adresse à tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un supermarché coopératif et participatif ?
Alors, nous, on est plutôt du côté des consommateurs qui reprennent le pouvoir et non pas des producteurs qui reprennent le pouvoir au niveau du sol.
Comme je disais.
C'est ça. Et ben, on sait que la grande distribution aujourd'hui détient grosse partie de l'alimentation et ça pose problème à certains consommateurs. L'idée du supermarché coopératif et participatif, c'est que des consommateurs s'associent pour créer une coopérative, un supermarché, devenir donc propriétaire de leur magasin et donc avoir un droit de vote sur ce qui s'y passe et les produits qui y sont vendus. Donc ça, c'est pour l'aspect coopératif. Et l'aspect participatif, c'est en devenant coopérateur, chacun s'engage à participer au fonctionnement du magasin à hauteur de 3 heures par mois. Au fonctionnement général, donc participer à la caisse, mettre en rayon. Voilà. Et par ce modèle économique, on arrive à avoir un panier moyen qui est réduit environ de 20 à 40%.
Donc c'est avant tout pour baisser les prix.
Ce qui est quand même conséquent. Voilà. Sachant qu'en plus, bien entendu, c'est un projet à but non lucratif. Donc tout profit est réinjecté dans le projet. Donc voilà. Et surtout, c'est créer un endroit rêvé où on va trouver la nourriture que l'on souhaite. Donc bien entendu, on appelle ça supermarché. Alors ça peut ne pas faire rêver, mais en fait, ça quand même, c'est pour un peu donner l'idée de ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des produits alimentaires quand même, mais aussi tout type de produits qu'on peut trouver aujourd'hui dans un supermarché. Et avec l'idée de tendre vers du local, des produits de qualité, donc bio ou pas bio, voilà, le terme de qualité voilà, est assez large et sans label, mais aussi avoir la possibilité d'avoir des produits de consommation de conventionnelle.
Ouais. Donc pour l'instant, vous êtes un peu en itinérance dans Marseille depuis plus d'un an. Enfin, vous vous déplacez dans la ville et là, a priori, vous aurez peut-être un local, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes inspiré d'un supermarché coopératif, notamment à Paris, qui fonctionne très bien, qui s'appelle La Louve.
Tout à fait. Malheureusement, cette idée n'est pas sortie de ma tête et on a affreusement copié.
Et La Louve qui s'est lui-même inspiré d'un autre.
Tout à fait. Donc le projet duquel on s'inspire, c'est la Park Slope Food Co-op à Brooklyn. Très sexy. cette coopérative qui existe depuis plus de 40 ans. Et il y a eu énormément de coopératives de consommateurs qui se sont créées, même en France. Mais celle-ci, aux États-Unis, elle a fonctionné, mais vraiment bien. Et elle est, c'est l'un des supermarchés les plus performants, aux États-Unis. Ils ont un fric incroyable. Ils peuvent même financer de nouvelles coopératives qui se créent. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Ils ont plus de 16 000 coopérateurs. Ils pourraient être plus, mais ils ne peuvent pas aller au-delà. C'est trop petit. Et donc, il y a deux Américains qui connaissaient ce projet, qui ont eu envie de le ramener à Paris. Et ils ont créé La Louve en 6 ans. Projet qui est aujourd'hui ouvert à Paris et qui fonctionne. Pour donner une idée, ils ont vraiment eu du mal à avoir des coopérateurs et convaincre qu'une chose comme ça était possible. Mais finalement, quand le supermarché a ouvert, ils sont passés de 2000 coopérateurs à plus de 5000 coopérateurs en quelques mois. Donc ça, c'est conséquent. Et donc voilà, et ça a créé toute une émulsion en France. Et chaque grande ville aujourd'hui travaille à son supermarché coopératif.
Vous connaissiez peut-être, vous, autour de la table, ce concept ?
Bien sûr. On est fans.
Vous êtes déjà allé par exemple à Paris ou...
Non, j'ai pas eu l'occasion d'aller ni à Brooklyn ni à Paris, mais je trouve que le système est carrément obligatoire, quoi. C'est-à-dire que ça résout plein de problèmes. Et puis, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que les consommateurs sont impliqués dans le processus de sélection des produits et qu'on se réapproprie ce qu'est la nourriture. Parce que le gros problème en France, c'est qu'on ne le sait pas, mais la nourriture est subventionnée par la PAC. Et en gros, je vais peut-être dire, c'est peut-être pas le chiffre précis, mais le vrai prix de la nourriture, c'est 30 à 50% plus cher que ce qu'on achète en direct au producteur. Je parle pas de la marge des hypermarchés qui est souvent honteuse, surtout en bio. Ça, c'est en ce moment ce qui est en train de se passer sur le bio. C'est assez dingue, mais le grand intérêt de ces supermarchés, c'est que le consommateur se réintéresse à la nourriture. Et ça, c'est vraiment essentiel.
Et c'est aussi, on se réintéresse à la nourriture et une toute autre manière de consommer. Donc, j'aime bien donner cet exemple parce que je le trouve assez intéressant. À la Louve, ils ont créé des petites étiquettes où il y a marqué chaque fois qu'un produit va se périmer, qui dit attention, attention, je périme dans 3 jours, attention, je périme dans 2 jours, attention, je périme dans 1 jour. Et en fait, ce qu'on fait sûrement tous quand on va au supermarché, on regarde les dates de péremption et puis on va chercher derrière celles qui se périment le plus tard possible et on laisse. Voilà. Là, l'idée, c'est que tout d'un coup, on devient propriétaire de tous les produits qui sont vendus et qu'on n'a pas intérêt à ce que le supermarché jette. Si en plus, on a un peu un intérêt à se dire que c'est quand même dommage de jeter énormément de nourriture, on rentre dans une toute autre manière de consommer. Donc, je vais acheter ces 4 yaourts qui périment demain parce qu'en fait, on est 4 à la maison et puis on va les manger ce soir et ça sera très bien. Et voilà, et je trouve que ça... Enfin, voilà, il y a plein d'outils qu'on peut développer avec ce supermarché qui change complètement notre manière de consommer.
Alors, un petit rappel, à peu près un tiers de la nourriture que l'on achète est jetée à la poubelle. En moyenne, sur tous les circuits, c'est monstrueux.
Alors, peut-être sur la question sociale, revenir sur justement ce que représente l'alimentation et l'art de la table, qui a toujours été un marqueur social dans l'histoire. Par exemple, pour la viande, donc on sait aujourd'hui qu'il faudrait manger moins de viande, mais à la fois, ça a été très longtemps un symbole de richesse. Donc c'est aussi compliqué de dire maintenant non, il faut que plus personne ne mange de viande, alors que c'est accessible au plus grand nombre. Alors est-ce que cette question-là, c'est une question de représentation de ce qu'on doit manger, ce qu'on devrait manger, selon vous? Enfin, je regarde un peu tout le monde, peut-être Joël, si vous êtes... Joël Zex.
En fait, j'ai une réponse un peu générale qui me vient à l'esprit, c'est que... Comment dire, je repense à cette expérience de Todd Morden qui a été inventée par 2 ou 3 dames effrayées par l'état de leur ville, dont la seule usine, et donc la seule source d'emploi, vient de fermer, une usine textile, et qui se demandent donc comment faire redémarrer une vie culturelle et une économie dans cette ville sinistrée. Et donc elles m'ont proposé ces incroyables comestibles, c'est-à-dire le fait que chacun est invité à cultiver. Qui une plate-bande, qui un carré, qui la cour de l'école, qui la bordure de la route, etc. Tout en, disons, en étant à la fois responsable de sa parcelle et en mettant à la disposition de tous les légumes qui vont être produits. Donc chaque carré ou chaque plate-bande est piqué un panonceau, disons, pick it up, it's free. Voilà. Et l'un des immenses avantages que voyaient ces dames à ce système, c'est que les enfants apprennent que comme il disait, c'est une phrase qui m'avait beaucoup frappée, les enfants apprennent que les aliments qu'ils mangent ne poussent pas sur les étagères des supermarchés. Alors là aussi, je crois qu'on vient de tellement loin. Enfin, c'est vrai qu'en France, une certaine relation à la terre fait que les enfants ne sont pas peut-être pas aussi incultes, si on peut dire, excusez la métaphore, que certains de nos voisins. Mais le fait est qu'il y a des tas de pays où les enfants, et les adultes d'ailleurs, ne savent pas que les cerneaux de noix viennent de noix, que les coquillages viennent de coquilles. Enfin, je veux dire, l'ignorance en matière d'alimentation est devenue hallucinante. C'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un aliment. Et ils l'ont désappris, je me souviens, aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps... où j'étais avec un ami qui ne comprenait pas ce que je faisais avec cette chose que je ramassais par terre et qui était des noix. Il n'avait jamais fait le lien entre le fruit et l'ingrédient qu'il voit listé sur la pochette ou sur l'étui de la barre chocolatée qu'il va manger. Donc voilà, on en est là quand même. Et je crois qu'effectivement, il y a une dimension éducative dans l'alimentation qui est permise par cette proximité de la plante d'une part et par aussi cette participation des jeunes, surtout dans les écoles, évidemment, participation des jeunes à un programme de revitalisation de l'agriculture urbaine qui est vraiment essentiel. Et c'est vraiment essentiel.
Justement, cette question de l'éducation, donc ça devient un sujet politique, enfin, ça l'a sans doute toujours été.
Politique, oui.
Est-ce que, selon vous, il manque aujourd'hui d'un volontarisme politique sur les questions d'alimentation durable ? Je pose la question à l'Assemblée.
Moi, je le pense, mais...
Oui, Thomas ?
Alors, je voudrais qu'on fasse juste attention à... Et moi, je trouve ça très, très important qu'on développe l'agriculture urbaine. C'est très important. Je soutiens, bien sûr, le projet des ECO de Frédéric Denel. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'on parle beaucoup aussi de ruches sur le toit. On parle beaucoup d'apporter à la ville la nature. Il faut aussi faire attention... Ce que j'ai déjà entendu un enfant me dire, moi je préfère être en ville. Alors il avait des mots, peut-être qu'il n'avait pas utilisé exactement ces mots-là, mais il me dit je préfère être à la ville qu'à la campagne parce que je sais qu'à la ville les abeilles ont l'air plus heureuses. Ce qu'on dit qu'elles sont, on communique beaucoup sur le fait que les abeilles sont heureuses en ville. On communique beaucoup sur mon petit potager de proximité. Faut pas oublier qu'aujourd'hui l'enjeu c'est aussi développer la campagne, développer les projets sur tout le territoire. Et faut faire attention à ne pas dire que au pied de mon immeuble qui permet de faire de l'ombre à mon potager, je vais pouvoir avoir de meilleurs légumes qu'au milieu de la campagne. Donc il y a une logique sociétale là-dessus.
Pour le nombre en plus.
Voilà.
Après,
et je vais quand même donner un contre-exemple. Parce qu'on est aussi là pour donner les clés et des messages forts. Et vous parlez d'éducation. On est en train de lancer à Montpellier, avec la Montpellier Business School, un projet de ferme en aquaponie. Là, c'est de la pure ferme urbaine. Mais ce n'est pas grave. Je ne dis pas que c'est mal, la ferme urbaine. Je dis qu'au contraire, c'est très bien. Mais je dis, faisons attention, restons dans des messages forts. Et donc, on a demandé à des jeunes de la junior entreprise, des jeunes qui ont 18, 20, 19, 20, 21 ans, de comprendre le sujet de l'alimentation et de développer des sujets d'alimentation en local pour être des ambassadeurs de ce qu'on va manger demain. Ça, c'est important. Donc, vous parlez d'éducation, on parle de transmission. Oui à la ferme urbaine, mais oui au développement de grandes fermes sans intrants, de grandes fermes, j'allais dire presque de dire, de grandes fermes industrielles naturelles.
Vivien Larcher, je vous voyais réagir sur la question des abeilles et la distinction ville-campagne.
Oui. Les ruches sur les toits, c'est très bien. C'est sympa, c'est un loisir assez agréable. À côté de ça, on nous dira qu'il n'y a pas de pesticides, insecticides dans le miel qu'on retrouve dans les ruches sur le toit. Donc ok, comparé à la campagne, c'est sûr qu'il y a largement moins de pesticides et d'insecticides dans le miel de ville que dans le miel de campagne. A contrario, il y a beaucoup plus de métaux lourds, du coup, dans le miel de ville que dans le miel de campagne. Et je pense que ça a été le miel béton, comme on l'appelle à Paris, ça a été une façon d'avoir une belle image de quelques ruches sur les toits. Il faut penser que l'apiculture n'est pas considérée comme un métier. C'est encore considéré comme une activité de nos grands-pères et de nos grands-parents, comme on le disait tout à l'heure ensemble. Dans le Var, par exemple, la moyenne d'âge d'apiculteur est de 58 ans. Donc il faudrait peut-être revoir et aider nos jeunes justement à essayer de faire quelque chose de plus moderne et pas se dire qu'ils n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes techniques. Au contraire, ils peuvent avoir de très bonnes techniques, de très bons moyens, économiques aussi du coup, et arriver à faire quelque chose de propre et durable et sans avoir l'aide de ces anciens qui, eux, ont connu justement toute cette période pesticides, insecticides. Et voilà, moi d'avoir des ruches en ville, c'est bien. Après, j'irai pas en mettre. Pour le bien-être de l'abeille et pour ce qu'on retrouve après dans le miel, dans les cires et dans tous les produits de la ruche. Voilà.
Sur cette question d'être l'agriculture en ville, est-ce qu'on se concentre trop dans le discours peut-être actuel sur l'agriculture en ville ? Est-ce que Frédéric.
Non, c'est juste une question de définition. Quand on parle d'agriculture urbaine, il y a beaucoup de définitions, mais c'est pour éviter de dire. Urbain et périurbain, parce que évidemment pour nourrir tout le monde, on ne pourra pas uniquement installer des paysans dans les villes. Et le périurbain, c'est plusieurs dizaines de kilomètres autour des villes. Et c'est là qu'il faut concentrer la création de nouvelles micro-fermes ou de fermes de taille moyenne, Il y en a des dizaines de milliers à créer. Il y a un potentiel économique énorme. Il y a un potentiel d'insertion par l'activité économique énorme. On le connaît. Il est documenté. Il existe. Aujourd'hui, il manque la volonté politique et une mise à jour de la PAC, de cette fameuse PAC, pour que l'argent qui est aujourd'hui déversé par milliards sur l'agriculture conventionnelle soit redirigé vers des pratiques qui sont plus durables.
Joël Zax, peut-être que...
Oui, je pense que c'est tout ça. Oui, c'est effectivement, enfin, je pense qu'il y a à considérer la ville et la campagne, mais le fait est que les frontières sont de plus en plus floues aujourd'hui. Elles sont fluidifiées. On essaie parfois de renaturaliser en quelque sorte les villes, mais il y a des architectes qui travaillent aussi à l'idée de mettre des infrastructures publiques dans les champs, pourquoi pas, c'est-à-dire d'exporter les villes vers les campagnes aussi. Enfin, donc je me souviens qu'à Bordeaux, c'est des questions qui ont été posées par la CUBE. Donc tout ça est vraiment en ce moment en pleine modification, surtout en Asie du Sud-Est où le tissu, d'habitat est extrêmement dense. Maintenant, ce qui est intéressant quand même dans la réflexion sur l'agriculture urbaine et dans l'idée qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la vie urbaine et la vie paysanne, c'est justement de mettre en cause, je pense, enfin c'était l'enjeu un des enjeux de ma recherche, de mettre en cause l'idée que le citoyen est nécessairement un urbain. C'est-à-dire qu'en fait, tous les termes qui désignent la vie politique et la qualification politique... qui désigne l'homme comme animal politique, en quelque sorte, pour parler comme Aristote, sont des termes qui font référence à la ville, à la condition urbaine. Citoyen, c'est l'habitant de la cité. La politique, c'est la qualité de l'habitant des villes, de la police. Donc, dans notre vocabulaire même, la citoyenneté est réservée à l'habitant des villes qui est justement déchargé du soin de la production, de l'entretien de la subsistance et de l'entretien du corps. Donc, la division ville-campagne, c'est une division quand même qui repose sur un vieux dualisme, on va dire, entre le corps, l'esclave, le processus vital qu'on trouve encore chez Arendt, d'un côté, et puis de l'autre, les régions éternelles de l'esprit, la spiritualité, l'élévation, etc., etc. Donc je crois que c'est pour ça que l'agriculture urbaine est particulièrement frappante aujourd'hui, parce que tout d'un coup, on se dit, on peut être un urbain, et donc un citoyen, on peut aller au cinéma et au théâtre, on peut bénéficier des fruits de la civilisation, et en même temps bénéficier des fruits de l'agriculture. C'est-à-dire on peut bénéficier de la culture au sens général du terme, à la fois l'agriculture et la civilisation.
Donc il y aurait un changement justement dans cette exclusion.
Qu'il y a quelque chose là pour nous, en tout cas dans notre mentalité, qui est particulièrement efficace politiquement. En tout cas.
Et oui, en plus symboliquement, c'est peut-être aussi une revalorisation du paysan et de l'agriculture.
Oui, du métier de paysan, certainement, oui. Où on se rend compte justement à la lumière de l'activité qui consiste à faire pousser des plantes que les paysans ne sont peut-être pas les abrutis qu'on les a réputés être depuis au moins 3 ou 4 siècles.
Oui, abrutis, conservateurs.
Oui, alors après, il y a toutes sortes de défauts dont sont crédités les paysans, mais enfin, globalement, notre histoire les humilie de A à Z. Ça, c'est très, très, très évident.
Emmanuel Perraudin, peut-être sur ce sujet, si vous...
Non, il y a une chose à laquelle je pense aussi, moi, c'est concernant ce sujet-là, en fait, c'est que... Un des moteurs principaux de la cuisine, en fait, de l'histoire de la cuisine, c'est la pauvreté. Parce que, c'est le fait d'avoir peu, et on le sait vraiment particulièrement en Méditerranée, en fait, le fait d'avoir peu et d'essayer de tirer le maximum et la quintessence, en fait, de ce qu'on pouvait trouver autour de soi. Le plaisir d'aller chercher... d'aller chercher des asperges sauvages, le plaisir d'aller cueillir son propre thym, le plaisir du poisson. Par exemple, pour l'histoire de cette fameuse bouillabaisse, là, aujourd'hui, quand on va manger une bouillabaisse, on pense qu'il faut une certaine liste de poissons, alors que ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Il y a cette idée du vent, il y a une forme de poésie, en fait, derrière la pauvreté. On dit que la bouillabaisse doit avoir le parfum de la rose des vents. C'est-à-dire que c'est le poisson du jour, c'est le poisson qui décide d'être mangé, c'est celui qu'on peut avoir comme ça facilement pour pas cher, en fait. Et on va pas chercher à aller justement grossir, essayer de montrer, essayer d'étaler. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle de pauvreté, et quand on parle du rapport des gens pauvres, en fait, à la nourriture, je suis pas bien persuadé qu'on ait ce rapport au plaisir et à la recherche des plaisirs sains de la vie, en fait. Quand vous ouvrez aujourd'hui le réfrigérateur de quelqu'un qui malheureusement survit, eh bien vous allez trouver essentiellement des produits qui sont issus de l'industrie agroalimentaire. Moi, je viens d'une famille extrêmement populaire, mais mes grands-parents étaient à la fois paysans d'un côté et puis ouvriers de l'autre. Et j'ai jamais vu la trace, notamment chez ma grand-mère ouvrière, j'ai jamais vu la trace d'un produit qui est issu de l'industrie agroalimentaire. En fait, ma grand-mère passait énormément de temps à cuisiner en plus de son travail. Et c'est plus le cas du tout aujourd'hui. On passait aussi beaucoup de temps à les cueillir, et c'est plus le cas du tout aujourd'hui. C'est un plaisir purement, pour le coup, là, c'est un plaisir vraiment urbain. J'étais vraiment très intéressé par ce que vous disiez justement sur New York, sur le fait que ça puisse, c'est l'initiative de venir se nourrir en fait, grâce à ces jardins en fait, puisse être venue en fait de pauvres, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de bosser un peu en prison. Quand je vois aujourd'hui en fait la nourriture à laquelle ils sont habitués, finalement. C'est un acte social de cuisiner. C'est un acte social et politique majeur, en fait, de cuisiner et de cuisiner de façon durable, de façon engagée avec des produits sains et des produits qui ne sont pas faits pour engraisser la bête. Les gens avec lesquels j'ai cuisiné à ce moment-là, en fait, mangeaient essentiellement, elles aimaient les pommes de terre, une nourriture extrêmement sursalée, enfin, tous les stéréotypes, en fait, poussés à leur maximum de la nourriture industrielle, en fait. Il y a cette réflexion-là, comme ça, ce rapport à la pauvreté, cette disparition-là de ce moteur qui était jusque-là essentiel, en fait, dans notre propre... Enfin, bien souvent, en fait, quand on veut regarder les choses, il faut savoir regarder aussi au-delà de nous-mêmes, là aux marches de la société, là où se trouvent justement ceux qui ont le moins, en fait, et là où se trouve le plus, finalement. Et là, il y a un vrai... Nous, c'est facile. Enfin, la plupart des gens qui sont ici ce soir sont... On se pose des questions qui sont importantes pour nous, mais qui sont presque du domaine de la distraction intellectuelle. Et on n'est pas dans quelque chose de... Finalement, on n'est pas dans... Vous voyez, il y a, alors notre, le rôle de cette discussion est essentiel, puisque de toute façon, elle doit être moteur pour le reste. Elle doit être moteur, en fait, dans cette recherche d'une alimentation meilleure. Mais voilà.
On reviendra naturellement de cette question. Peut-être Magali,
je voulais applaudir, oui. En fait.
on reviendra justement à cette question du plaisir de la gastronomie dans quelques instants. On va écouter Marc de Hocus Pocus.
L'homme sandwich, le 4x3 sur pâte. Je sors pas sans marque en surface,
et parfois me surpasse.
En enfilant un t-shirt blanc, mais pas n'importe lequel, je veux sentir dans mon cou l'étiquette américaine apparaît.
Virgule sous la semelle,
trois bandes sur le flanc,
panthère dans le dos et
crocodile devant. Cigale à 100 en verso, j'affiche mes goûts perso, estampillé logo, recto logo, verso.
Réveil en sursaut, au milieu d'un cauchemar.
Les barreaux de ma cellule se changeaient en code-barre. Je me taillais un costard dans un tissu de mensonge.
Je faisais le trottoir en combinaison Bob l'éponge.
Un mauvais rêve où des petites mains cousaient le logo, assemblaient les manches et le col de mon polo Ralph Lauren. Ouais,
j'aime les griffes, le nœud pape d'Eden Park. C'est que je m'appelle Marc. Chez Marc, y'a un peu de moi. Un peu de toi, mais un peu moins. Ce Marc, c'était mon pote, je crois. Autrefois, mais c'est un peu loin. Chez Marc, y'a un peu de moi. Un peu de toi, mais un peu moins. Ce Marc, c'était mon pote, je crois. Autrefois, mais c'est un peu loin.
L'homme.com, ton jumeau 2.0, j'ai des tonnes de codes et des kilomètres de numéros.
Curriculum hors norme, heureux quand t'as le blues, quand tu loses sur Windows, que tu jalouses mon macOS 12.
Suis ta facette pas très discrète, celle qui se la pète, qui choisit ses conquêtes au nombre d'étiquettes.
Je suis ton alter ego, ton côté détestable, qui te fait mentir, tromper,
sans te sentir coupable.
Je suis ton pote imaginaire de quand t'étais type. Aujourd'hui un sale type qui peut te rendre piteux.
Je passe à côté du mec qui a le trottoir comme seule adresse.
Ouais, je l'ignore quand il me fait.
T'as pas une pièce.
J'habite chez toi, des fois je te dis tais-toi sur tes dix doigts.
Le majeur droit est à moi.
Je suis ton frère si à moi.
Ne doute pas, tu ne fais pas le poids.
Marc c'est moi, mais quelque part c'est toi.
Chez Marc y'a un peu de moi. Un peu de toi mais un peu de moi. Ce Marc c'était mon pote je crois. Autrefois mais c'est un peu loin. Chez Marc y'a un peu de moi. Un peu de toi mais un peu de moi. Ce Marc c'était mon pote je crois. Autrefois mais c'est un peu loin.
J'suis l'homme écho. Autant sur l'eau que sur les mots. Soigne mon ego en consommant à terre et écolo.
Des marques repères quand l'emballage est vert.
Des fraises et tomates bio même en hiver.
Ouais. De l'équitable, discount, sponsorisé total.
Sur le paquet, je veux un visage d'enfant couleur locale.
Ouais. Les cheveux longs, pauvres, bronzés et un peu sales.
Ouais, mais qui sourit? Oh, sinon ça me coupe la dalle. Je me prends pour un consommateur, mais je suis qu'un figurant. Dans ce blockbuster made in Auchan,
je voulais être devant.
Et me voilà au dernier rang, au second plan. À peine un pixel dans l'écran. Je suis cette part de toi qui ne tient pas parole.
Qui cache l'odeur d'alcool derrière une haleine menthol.
Et dans la classe, tu me regardes en face.
Je suis Marc,
ton double que rien ne remplace.
Je fais un régime à base de... à base de Wish la reine.
Excuse-moi, à base ?
À base de Wish la reine. C'est des petites tartes.
On est toujours en direct au 25 rue de la République dans l'épicerie éphémère qui vient d'ouvrir ses portes pour le mois de septembre. Donc à la fois un restaurant le midi et le soir du mercredi au samedi et des soirées et des plateaux radio comme celui-là jusqu'à encore 19h30. Il y en aura un autre mercredi prochain et encore le suivant mercredi 20. Donc on a parlé production, consommation, achat, questions sociales et j'aimerais qu'on parle un peu de gastronomie. Et alimentation durable, donc l'alimentation durable c'est le thème de cette émission. Emmanuel Perraudin, vous êtes chef et notamment chef ici dans ce projet. Qu'est-ce qui vous a plu peut-être? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet?
Alors il y a plusieurs choses en fait. Tout d'abord il y a le fait de pouvoir travailler avec les grandes tables de la Friche qui soutiennent avec le fonds épicurien maintenant depuis un an et demi, deux ans en fait une vraie action sur ces questions-là. Avec la création de grands marchés qui ont lieu. Enfin, déjà, il y a un marché. C'est parmi les premiers marchés qu'on trouve récurrents avec des producteurs raisonnés en ville tous les lundis en fin de journée aux grandes tables de la Friche. Et puis surtout, une fois tous les trimestres, il y avait donc un grand marché avec des chefs de cuisine, des producteurs essentiellement évidemment, et puis même une proposition artistique. Et du coup, c'était intéressant alors que voilà on. La fête de la gastronomie va être tournée autour du produit, donc d'être comme ça dans une nouvelle action supplémentaire. En fait, chacun doit apporter sa touche à chaque fois. On essaie systématiquement d'apporter quelque chose. Et puis, c'est un travail qu'on mène ensemble depuis... que j'aide modestement, en tout cas. Enfin, j'aide modestement les grandes tables dans ce but-là depuis un an et demi. Et voilà, c'est une pierre de plus, en fait, dans ce processus.
Alors, sur, vous parliez avant la pause musicale justement du plaisir qu'on peut trouver dans la gastronomie et que tout le monde devrait trouver ou retrouver dans la gastronomie. Et à ce propos, Carlo Petrini, donc, qui est l'initiateur, enfin à l'origine du mouvement Slow Food, avait dit dans un article, un gastronome qui n'est pas un écologiste est un imbécile, mais un écologiste qui n'est pas un gastronome est un triste cire.
Oui. Non, mais... Manger, c'est un acte politique et un acte culturel majeur, en fait. Je sais pas, alors, on dit peut-être ça parce que c'est une culture française, mais c'est bien plus que ça, en fait. Toutes les notions, enfin, la cuisine et l'alimentation ont une forte capacité à créer du symbole, en fait, à créer du lien. C'est bien pour ça, ou sûrement que ça soit. Enfin, c'est bien pour ça, sûrement qu'on s'intéresse aussi encore autant aujourd'hui. C'est parce que justement, alors que toutes les choses qui font du lien, finalement, qui faisaient du lien jusqu'à présent disparaissent autour de nous, il reste encore la cuisine et il reste encore l'alimentation. Et c'est pas une question. C'est pas en plus. C'est pas forcément une situation. Enfin, c'est pas forcément non plus un réflexe de réaction. Enfin, réactionnaire dans le sens politique du terme. Ça peut être aussi. Ça peut vraiment être porteur d'avenir, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a de fortes probabilités que en fait, le fait culturel même vienne et provienne même du fait de cuisiner. Je remonte là à des temps très très préhistoriques, en fait. Et pour moi, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, de ne pas l'avoir oublié, en fait, que justement la cuisine est peut-être là. En fait, ce qu'il se passe autour de la table, c'est peut-être de là en fait que naît quelque chose d'important, et peut-être de là que va naître le lien et un avenir possible et des choses en commun.
Je pense que personne ne va vous contredire autour de la table. Comment vous, en tant que chef cuisinier, vous adaptez votre cuisine justement à ce désir de durabilité, d'alimentation saine et écologiste?
Tout d'abord, c'est la sélection des produits et des producteurs, en fait, de soutenir ceux qui ont des démarches durable, ça c'est vraiment l'essentiel. Et vous savez, quand on cuisine quelque chose, quand on cuisine, en fait, si on cuisine, vous cuisinez un produit mort, vous ne donnerez aucun plaisir et vous n'allez pas nourrir, en fait. Vous allez juste, je sais pas quel terme on pourrait employer, enfin
remplir,
c'est ça, apporter la quantité de calories nécessaire, en fait, à la personne. Alors c'est bien plus que ça. En fait, de cuisiner avec des produits sains. Vous savez, même dans la notion de bio, j'en parlais encore il y a deux semaines avec un producteur qui me racontait, en fait, c'est assez drôle, en fait, dans toutes ces certifications bio, etc. Aujourd'hui, on trouve aussi des produits issus, en fait, de semences hybrides, en fait, et donc qui ont le certificat bio, mais qui finalement nourrissent assez peu. En fait, on parlait de courgettes et qui sont finalement pleines d'eau. Si jamais il suffit de sous-peser, en fait, c'est assez drôle, sous-peser une courgette, une belle courgette, et une courgette que vous allez trouver dans un supermarché, ça n'a rien à voir. La courgette trouvée dans un supermarché lambda, en fait, issue de presque industrielle, en fait, une agriculture industrielle, et d'une légèreté incroyable, alors qu'une courgette, c'est quelque chose d'extrêmement dense, qu'on met du temps à cuire, en fait. C'est des choses qu'on a oubliées. Il y a quelque chose comme ça de... Il y a quelques temps encore, là, je cuisinais autour de la tomate, et déjà, en fait, le fait d'être au plus près aussi du producteur, en fait, évite tous les passages en zone froide qui tuent le goût. Déjà, on a un goût plus direct, et puis avec moins de tomates, très honnêtement, c'est pas une lubie, avec moins de choses, en fait, on nourrit plus, parce qu'on a besoin de moins d'apport en volume, parce que il y a plus de nourriture, plus de substances nutritives, en fait, se retrouvent dans des produits correctement élevés.
Et vous, dans votre pratique professionnelle, du coup, vous insistez sur le végétal?
Oui, évidemment, ça fait des années, mais le rapport du végétal aussi, à l'animal, de toute façon. Mais ça me paraît essentiel, la notion de plaisir aussi, là, c'est essentiel là-dessus. Il y a un plaisir fou à manger un produit sain. On ne trouvera jamais avec un produit qui n'est pas un produit issu d'une agriculture industrielle. C'est impossible. C'est totalement impossible.
Donc là, on est au 25 rue de la République, le répète. Donc vous proposez le midi et le soir.
Oui, le midi et le soir, en fait, le midi, une série de petites mezzés, en fait. Ça, c'est pour reprendre. Ça, c'est important parce que j'ai choisi le mot mezzé parce que déjà, j'aime pas le mot tapas, parce qu'il est très, galvaudé. Et c'est surtout pour revenir à l'idée, en fait, du repas méditerranéen. Il n'y a pas vraiment de mot en français, malheureusement, pour parler de ce banquet méditerranéen. Il y a quelque chose comme ça qu'on n'a pas voulu, qu'on ne veut pas forcément conserver, en tout cas dans les mots, où il y a quelque chose peut-être de trop intime, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de mots dessus. Mais en tout cas, la cuisine française, elle est née à Marseille, et elle est née du rapport de la Méditerranée avec les gens qui se trouvaient à l'époque, il y a 2600 ans ici. Et donc c'est dans ce rapport-là, en fait, à cette cuisine méditerranéenne qui est vraiment multiple et en même temps unique, c'est-à-dire il y a une forme comme ça, c'est mezzé, en fait, cette capacité de mettre sur table une série de petits plats à partager, et qui ont toutes une base culinaire commune, en fait. Hein. C'est une base, enfin, je ne vais pas vous faire une histoire de la cuisine méditerranéenne, mais c'est une base romaine. Donc une petite série de mezzé qui changent assez fréquemment, des plats qui, eux, changent tous les jours, deux plats qui changent tous les jours, et un dessert qui changera également tous les jours aussi, en fonction des produits du marché, évidemment. Vous savez, j'ai été très marqué, j'ai eu la chance cette année de pas mal voyager, je suis allé en Turquie, pour le festival de l'artichaut, et dans cette petite ville au sud de Smyrne, j'ai eu la chance de manger dans le meilleur restaurant de ma vie, je pense. C'était un restaurant tenu par des femmes, au service et en salle. Le menu changeait tous les services, exclusivement en fonction du jardin qui se trouvait juste à côté. Et ça, c'était remarquable. On n'était que des chefs de cuisine autour, on était comme des gosses, en fait face à ça. C'était magique. Il y a ce rapport comme ça, ce rapport d'immédiateté. Moi, c'est ce qui m'avait fait aussi aimer la cuisine, le rapport de l'immédiateté dans l'acte de cuisiner. Et ben, il faut aussi, je pense que c'est du devoir de chaque cuisinier aussi de le montrer, de le pousser à le mettre en œuvre aussi pour le rapport au produit qu'il utilise.
Alors, on pourrait peut-être faire un petit tour de table sur le thème de l'alimentation durable. Est-ce que vous auriez une recette ou un aliment durable qui symbolise, selon vous, cette alimentation durable ?
Il faudrait choisir, c'est pas possible.
un seul parmi plusieurs.
Vous me laissez réfléchir un peu.
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Il me semble que Thomas avait préparé.
J'ai rien préparé.
Non.
Moi, il y a deux messages. Avant de parler d'un plat, je veux vraiment dire qu'aujourd'hui, il y a 30 producteurs qui proposent leurs produits, que ces produits vont dans les casseroles d'Emmanuel. Et j'ai déjeuné aujourd'hui et je voulais te remercier. Je ne sais pas comment s'appelait le plat, ce mélange d'artichaut. Raconte-nous là, fais-moi rêver avec le plat que tu nous as fait à midi.
Inspiré de la cuisine turque, du coup ?
Non, il n'était pas inspiré de la cuisine turque. Non, l'artichaut, c'est mon légume préféré, en fait. Non, c'était des ravioles de chèvre avec des artichauts que j'avais traités comme des petits pickles, mais des pickles chauds, en fait, avec quelques noix et puis un consommé de coque. Voilà, donc on n'était pas totalement autour du végétal, puisque j'aime bien les rapports comme ça, enfin, aller chercher un peu à l'extrême, en fait, aller ailleurs pour montrer comment, en fait, pour valoriser le produit. C'est-à-dire qu'en cherchant, en fait, le goût du coq, j'ai finalement réussi à montrer un goût différent, en fait, dans l'artichaut et dans le chèvre. C'est ça qui me paraissait intéressant.
En gros, c'est vivement demain pour découvrir quelque chose de nouveau.
Donc au 25 rue de la République, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, est-ce que peut-être autour de la table des idées ou des recettes d'aliments qui pour vous sont durables ou...
Oui, je pense aux plantes, aux légumes vivaces qui sont assez peu connus en fait en France. Quand on parle de maraîchage, évidemment, ce sont des plantes qu'on replante tous les ans, mais il y en a énormément qui ont été perdues pour les problèmes de productivité. Par exemple, j'ai redécouvert le chou d'Auberton, qui est un chou qui pousse pendant presque 7-8 ans. Et on peut se servir régulièrement, on coupe les feuilles, et ça repousse, et ça repousse, et ça repousse encore. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple d'alimentation durable.
Pour moi, la facilité, le miel, du coup. C'est assez facile.
Et en quoi c'est durable, alors ?
En quoi c'est durable ?
On l'a déjà dit, ça va.
En tout, je pense. Il n'y a pas de limite sur les produits de la ruche. Il faut juste du bon sens. Voilà.
C'est beau. Joël, Magali, peut-être qu'une idée hein.
Avant d'arriver sur le plateau, là, j'ai eu la chance de descendre, visiter la champignonnière, c'est pas facile à dire, et je trouve que c'est un bon exemple de produit durable. Ces pleurotes qui poussent sur du marc de café récupéré, c'est assez exceptionnel.
C'est magique.
C'est ça.
Le tour de table continue avec Joël Zax.
oui, enfin là encore, peut-être une ou deux généralités, mais c'est vrai que... Disons, la distinction qu'on peut faire entre les aliments et la nourriture est peut-être quelque chose de vraiment utile, on en parlait à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des, des choses qui vous nourrissent, et puis il y a des choses qui ne font que vous maintenir en vie. Et du coup, ça m'amène à quelque chose qui est peut-être une condition, je dirais, de la nourriture. La nourriture et l'alimentation durable. Alors que l'alimentation, ça peut vous faire mourir. Il y a des tas de produits que vous ingérez qui ne vous nourrissent pas et qui, en plus, vous empoisonnent. Donc, je crois que c'est quelque chose qui peut nous éclairer sur nos pratiques alimentaires. Mais il y a aussi, pour réagir à tout ce que vous disiez, c'est que, justement, l'alimentation n'est pas liée au plaisir. Elle est liée aux besoins, alors que la nourriture est liée au plaisir. C'est-à-dire qu'elle a une dimension esthétique. Et je crois que c'est important aussi à prendre en considération cette dimension esthétique. Bon, c'est une dimension de l'art, mais non seulement parce que, effectivement, disons, les qualités intrinsèques des aliments sont comme exacerbées, et la nourriture est agréable à manger, mais aussi parce que ça nous introduit, disons, à la pluralité extrême des peuples et des cultures. C'est-à-dire que chaque maison a sa tradition culinaire d'une certaine façon, et bien évidemment chaque maison se rapporte à une série d'autres maisons qui est également habitée d'une tradition culinaire. Et je repense à cette phrase d'un anthropologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Franz Boas, qui est un spécialiste des Indiens Kwakiu de la côte nord-ouest du Pacifique, mais qui étudie les paniers et en particulier la vannerie et les vêtements des Indiens Kwakiu. Mais qui est la première phrase de ce livre, et on est en 1910, dans une époque extrêmement xénophobe, raciste, suprématie de l'homme blanc, etc., qui dit « Il n'y a pas un seul peuple chez qui n'existe pas un sentiment de beauté ». Et quand on réfléchit bien à cette phrase, on comprend que là, c'est vraiment le coup d'envoi d'une pensée multiculturelle, d'une pensée de la diversité, d'une pensée de la pluralité humaine. Et je crois que la cuisine, c'est ça. Et du coup, passer par la cuisine, c'est aussi, d'une certaine façon, se réintroduire dans ce royaume extrêmement riche de la pluralité humaine.
Bon, il va falloir enchaîner.
Réintégrer dans l'alimentation, on a le régime crétois, on a ce blé, cette vigne et cet olivier. Vous prenez une tomate, vous la coupez en deux avec un petit filet d'huile d'olive, c'est juste simple, c'est juste délicieux. Un petit fromage de chèvre, pourquoi pas, et alors si c'était de la brousse du Rove, encore plus. Donc on se retrouve avec, il n'y a pas un plat, on va dire, qui est juste magique, il y a des plats, et on s'aperçoit que tous ces produits, cette bonne tomate, cette belle courgette, ce bon produit, on revient toujours au sujet de l'alimentation durable au cœur de notre de la République. C'est la révolution, c'est notre consommation. C'est nous qui décidons du monde qu'on veut avoir demain. Alors c'est vrai que le fonds épicurien, c'est plutôt une dimension, on va dire, un peu capitalistique au départ, parce qu'on se dit, mais c'est des mécènes qui donnent de l'argent, donc c'est bizarre, d'où vient cet argent? Mais on s'aperçoit que de l'autre côté, lions ces projets d'idéalistes, de gens qui veulent changer le monde, et j'espère que... il va y avoir encore plein de gens qui vont vouloir transformer leur vie, peut-être changer. On a notamment la compagnie des bocaux, ces consultants de KPMG qui ont décidé de tout arrêter pour aller trouver des belles tomates et les mettre dans des bocaux et les vendre. On a ces petits jeunes qui sont plus trop jeunes, si, ils sont toujours jeunes, M-K-Pop qui font de la glace incroyable et qui étaient aussi des consultants. Il y a un moment, on a ces beaux apiculteurs qui sont autour de la table, des équipes qui ont changé aussi leur vie pour transformer, pour aider la nature, justement, pas pour la transformer, pour l'accompagner. C'est aussi ça, la durabilité. Le mot durable, il est important, et c'est la simplicité de notre vie au quotidien.
Peut-être, je ne sais pas si Joël, vous êtes au courant de ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un phénomène, justement, d'installation on parle beaucoup de néo-paysans, de jeunes qui s'installent, qui sont à la base citadins, et qui s'installent dans l'alimentation durable, bio, etc. Est-ce que c'est vraiment... quantifiable, peut-être, oui, sans doute. Mais...
Bon, là aussi, ça ne peut être qu'un témoignage que très, très local. Effectivement, c'est le cas. J'ai aussi parlé pas mal avec des étudiants de l'INRA qui envisagent ce grand tournant. Donc, dans les écoles d'agronomie, il est maintenant moins question du productivisme industriel et du modèle rationaliste qui a prévalu pendant très longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, depuis 1820-1840. Et les jeunes, imaginent maintenant de se tourner vers non seulement la découverte de techniques agricoles beaucoup plus durables, comme la permaculture, la biodynamie, etc., toutes ces méthodes d'agroécologie, mais également vers la recherche de nouvelles méthodes d'agriculture durable, parce qu'il y en a plein, qu'il faudrait adapter ou qu'il faut, y compris d'ailleurs des cultures hors sol. Enfin, là, moi, j'ai un gros point d'interrogation sur les cultures hors sol, mais là, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera, la culture hors sol. Enfin, on peut faire pousser les légumes bien loin de la terre. Je ne sais pas quel goût ils vont avoir. Mais voilà. Donc, non, effectivement, il y a une... une prise de conscience, je dirais, que le fait de manger, le fait de produire, le fait de cultiver peut être un élément de la vie quotidienne. Je ne dis pas le tout de la vie quotidienne d'ailleurs, mais un élément de la vie quotidienne qui donne un peu du sens et aussi du plaisir à cette vie.
Mais, Emmanuel, vous sentez ce mouvement peut-être aussi d'intérêt pour l'alimentation durable dans la gastronomie ?
Oui, c'est un vrai mouvement. C'est un vrai mouvement qui, ça fait quoi ? Ça fait 6 ou 7 ans maintenant, une dizaine d'années, on va dire, plutôt une dizaine d'années. En fait, c'est un mouvement qui avait relevé, même plus, 20 ans, on va dire, Jean-François Revel, dans un des ouvrages qu'il avait consacré à la gastronomie, sur ce retour au produit, ce retour à la terre, en fait. Mais ça, c'est aussi une longue histoire, en fait, parce que. Il y a plusieurs forces en fait qui sont à l'œuvre au sein de la cuisine et au sein des questions de l'alimentation. Il y a le rapport à l'innovation et le rapport aux produits. Aujourd'hui, quand on parle de saisonnalité et quand on parle des anciens temps, on oublie aussi la Quintini au XVIIe siècle, qui réussissait à faire pousser des artichauts hors saison et puis à des oranges aussi également hors saison. Donc en fait, il y a des mouvements de balancier en fait derrière tout ça. Il y a des forces sourdes et lourdes qui sont derrière ces tendances en cuisine. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que depuis maintenant une vingtaine d'années, ça, c'est une certitude, même 30 ans, on va dire depuis la nouvelle cuisine, peut-être 30 ou 40 ans. C'est la nouvelle cuisine qui a remis vraiment le produit au goût du jour, qui a sorti en fait la cuisine française de la technique pour la remettre plus dans les rails du produit.
Avec le pain aussi.
Magali, tu voulais intervenir ?
Oui, alors je voulais juste rajouter quelque chose, parce que ça va être bientôt la fin. Je réfléchissais à la question, c'est quoi le produit qui peut être le plus durable ? Et en fait, là, j'ai eu une pensée, j'ai pensé au vin naturel, s'il y en a ici, qui est un produit que j'ai découvert il y a quelques années, mais que je découvre de plus en plus ces derniers temps. Et j'ai lu ce manifeste du vin naturel. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ce vin naturel, il est hors label. Et en fait, on n'en a pas trop parlé sur la question de l'alimentation durable. Mais finalement, c'est aussi soumis à des questions de label, le bio, le pas bio. On parle de raisonné. C'est assez intéressant parce que ça perd beaucoup. Notamment aujourd'hui, il y a du bio, mais c'est industriel. Et donc, ça perd aussi beaucoup le consommateur. Et cet endroit de vin naturel où il n'y a aucun label et qui concerne ces vignerons qui se battent en fait, ça devient un endroit très très politique de durabilité et aussi de liberté. Et ça, je trouve que, enfin voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein, de création et de liberté aussi là-dedans.
Si je peux juste dire un petit mot. Je pense qu'il n'y a pas de produits plus durables les uns que les autres ou de façon de faire. C'est juste la transmission. Comme il le disait tout à l'heure Emmanuel, on n'a pas de plaisir à prendre quand on mange un plat conventionnel, industriel et préparé et trop salé ou ainsi de suite. Et juste la seule chose, c'est quand on mange quelque chose de bon, une tomate du jardin, une courgette du jardin, n'importe quoi. La seule chose qu'on a envie, c'est de transmettre aux amis qui viennent, à la famille, et ainsi de suite. Donc je pense que ce qui est durable, c'est juste la transmission.
Bien, on va se quitter sur ces belles paroles de transmission, de vin et de liberté. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir été parmi nous. On va se quitter, du coup, il est presque 19h30. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, donc mercredi 13, il y aura également un plateau radio qui portera plutôt sur manger bio, manger local. Puis un troisième plateau animé sur Radio Grenouille le mercredi 20 sur les questions de la journée de la gastronomie. Donc voilà, vous êtes les bienvenus à la fois ici au 25 rue de la République et sur le 88.8. Et surtout, venez ici pour déguster et acheter. Merci beaucoup. Et je vous rappelle aussi, une dernière précision, qu'il y a des soirées le vendredi et le samedi animées ce week-end par l'équipe de Tropicold. D'ailleurs, le titre qu'on entend a été choisi par Olivier, l'amateur de l'émission Tropicold. C'est Subaru. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci.
Merci.